ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption.
Est-ce que vous mangez les riches ?
Alors, il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc.
Vous êtes ici chez les salopards, hein ? C'est admis.
On va rester groupés, ça va bien se passer.
La chronique de Maëlle sur Divergence.
Paris, de nos jours. Alors que la France vit une énième année de crise politique, économique et sociale, un homme se voit confier une mission, redresser le pays. Aidé par le fleuron de la nation française, réussira-t-il là où tant d'autres ont échoué? La saison 8 de votre série, y a-t-il un ministre pour sauver la France? C'est dispo. Purée de bordel de merde.
Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère.
Je pense que ça résume suffisamment bien les faits. J'ai déjà gaspillé beaucoup de salive sur cette série de mauvaise qualité, aussi je vais vous proposer plutôt de parler d'autre chose. Non pas que ça m'intéresse pas, mais si en fait ça m'intéresse pas. Venez, on les ignore collectivement, on leur parle plus, on les regarde plus, et peut-être ils vont disparaître. De toute façon, ça fait des mois qu'on nage en plein délire et le pays continue de tourner, de manière bancale certes, mais ça continue. Comme quoi, quand les bullshit jobs sont inoccupés, ça change pas grand-chose à notre quotidien. Enfin bref, on va parler d'autre chose. Avant tout ce ramadan politique de merde, j'avais prévu de vous parler de la droite. Enfin plutôt de pourquoi les gens sont de droite. En fait, il y a 15 jours, j'ai suivi avec attention les trackers GPS des navires de la Global Soumout Flotilla qui tentaient d'atteindre la bande de Gaza alors sous blocus illégal par l'État d'Israël. Dans mon esprit sans doute trogné, je ne pensais pas qu'une aide humanitaire pour un peuple massacré par un gouvernement d'extrême droite pouvait être contestée par qui que ce soit. Et puis après, j'ai allumé la radio.
Que ça va devenir une mode. Les flottilles financées par le Hamas pour aller en Palestine faire je ne sais quoi.
Elle fait plutôt bien la propagande du Hamas. Elle en est maintenant pas à approuver. Totalement le Hamas. Ils en sont là, ces gens-là. Mais encore une fois, on présente ça comme une flottille humanitaire, alors qu'ils n'apportent strictement rien. C'est une flottille publicitaire. C'est tout.
Voilà, hein, c'est un ramassis de conneries et de désinformation. Quand Gilles William Goldnadel, avocat franco-israélien qui se définit lui-même comme étant de la droite du sauciflard et dont le fils a servi dans l'armée israélienne, donne son avis sur Gaza, on sent déjà la douille. C'est comme quand vous vous branchez sur Divergence pour m'écouter, vous savez déjà que je vais pas faire la promotion de Bertrand Cantat et d'Éric Zemmour. À la base, j'avais prévu de déconstruire tout ce discours anti-Gaza, quitte à y laisser ma zen attitude légendaire et 5 ans d'espérance de vie, mais une conversation avec ma bestie l'autre soir m'a donné une autre idée, ou plutôt m'a fait me poser une grande question. Pourquoi la droite ? Ben oui, c'est vrai, avant de leur cracher à la gueule aux droitards, on peut faire l'effort de les comprendre. Alors attention, faut se mouiller la nuque avant de plonger, je m'attaque pas à un sujet facile, mais j'ai le goût du risque et très très peu d'estime de moi. Alors c'est parti pour un cours de sociologie politique.
Ok, let's go.
Déjà, c'est quoi la droite ? Historiquement, on a tendance à dire que la droite et la gauche sont nées au moment de la Révolution. Les royalistes se positionnaient à droite de l'hémicycle et les républicains à gauche. Je schématise, hein, parce que c'est bien évidemment pas aussi simple que ça, il y a eu de sombres histoires de têtes coupées et d'empereurs mégalos qui ont pesé dans la balance, mais voilà, c'est les grandes lignes. Après la Révolution, il y a plusieurs courants de droite et de gauche qui se sont formés au fil des années et des expériences pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui. La droite se divise, à mon sens, en deux parties, la droite dite traditionnelle et l'extrême droite. Dans la droite traditionnelle, les valeurs principales sont grosso modo le travail, la liberté, le libéralisme économique et dans une certaine mesure la tradition. Et l'extrême droite, quant à elle, elle est nationaliste, c'est-à-dire la France d'abord, et elle se positionne pour plus de sécurité et contre l'immigration. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de mal à différencier la droite de l'extrême droite. Le RN, juridiquement classé comme à l'extrême droite, réfute totalement cette qualification. Et les partis de droite plus modérés, comme les Républicains, ben on a un petit peu plus de mal à les distinguer des partis d'extrême droite qu'avant. Alors se pose la question, est-ce que c'est l'extrême droite qui se modère ou alors est-ce que c'est la droite qui se radicalise? Pour répondre à cette grande question, il faut expliquer le concept de fenêtre d'Overton.
La fenêtre d'Overton, c'est l'espace d'acceptabilité des idées dans une société, c'est-à-dire les sujets qu'on peut ouvrir au débat sans passer pour un zouave. Donc, il y a la fenêtre. À l'intérieur du cadre, les idées considérées comme acceptables. Personne n'est d'accord, mais tout le monde accepte l'idée qu'on peut en parler. À l'extérieur de la fenêtre, les sujets pas acceptables. Maintenant, cette fenêtre d'Overton, elle n'est pas figée. Une bonne partie du combat politique, c'est d'essayer de rendre certaines idées acceptables. Autrement dit, d'élargir la fenêtre. Alors ça peut être pour des idées chouettes, par exemple le droit de vote des femmes, ou l'arrêt du travail des enfants, ou le Pax, et puis ça peut être pour des idées moins chouettes.
Voilà, donc par exemple ces idées moins chouettes, ça peut être l'islamophobie, le racisme, l'antisémitisme, ou alors, au hasard, la défense d'un génocide. Ça vous rappelle quelque chose ?
C'est lié à l'hygiène, je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France ?
Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là qu'ils crèvent tous.
Alors, la première fois qu'on entend ce genre de discours, ça fait un scandale. Et puis il y a une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième, et au bout d'un moment, ça ne choque plus personne. Vous voyez, depuis des années qu'on entend des propos ouvertement islamophobes et racistes, ben à force, ça se banalise. On n'est même plus surpris d'entendre sur CNews et BFM des propos qui devraient nous révolter. Moi, la première, hein, quand je cherche des extraits pour habiller mes chroniques, je sais exactement où aller les chercher, sur CNews. Ce qui nous surprendrait même aujourd'hui, ce serait d'allumer une de ces chaînes et d'entendre l'inverse. Et voilà comment ce décalage de la fenêtre d'Overton crée une confusion et une polarisation illisible de la situation politique française. Les idées xénophobes et antidémocratiques sont progressivement entrées dans l'arc des sujets desquels on peut légitimement débattre, alors qu'il n'y a pas si longtemps c'était la mort sociale assurée de lâcher qu'ils crèvent tous. Ces idées ont été adoptées par les partis de droite républicaine, du genre LR et notre bon vieux Retailleau, ce qui fait que tout est brouillé, et le peuple s'en trouve divisé. Les gens de gauche sont taxés de gauchias, woke islamo-gauchistes, et les gens de droite sont taxés de fachos, de nazis et de sacs à merde. Je fais la morale à la personne là-dessus, étant donné que j'ai moi-même le facho facile. Et ça, c'est parce que je considère à titre personnel que la gauche fait entrer dans la fenêtre d'Overton des idées nobles. Le droit de vote des femmes, la sécurité sociale, les congés payés, le SMIC, le mariage pour tout, tout ça, c'est la gauche. Là où la droite élargit, à mon sens encore une fois, la fenêtre des idées qui m'horripilent. Le racisme, le conservatisme, le nazisme, le génocide, le masculinisme, etc. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tous les gens de droite défendent de telles idées, je sais pertinemment que ce n'est pas le cas, puisque la plupart des gens ont des avis nuancés. Ils ne s'identifient pas à 100% dans un parti ou dans un autre, et heureusement. Mais les médias ont un grand rôle dans cette semblante polarisation. Déjà, vous avez sans doute remarqué, sur les plateaux, on ne s'écoute plus. Vous me direz, on s'écoute plus non plus au gouvernement, hein. Vous voyez comme le gouvernement Le Cornu a fait sensation.
On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit.
Mais si on revient sur les plateaux de médias, une journaliste récemment promue à la présentation du JT de France 2, dont je tairai le nom, a un jour dit qu'elle cherchait à créer des moments dans ses interviews.
Le plus important, évidemment que c'est pas la question, mais c'est le moment. C'est même pas la réponse, c'est le moment. C'est-à-dire que peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment, il faut qu'on entende. Moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. C'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment, soit que, et que l'auditeur soit surpris.
Un moment. C'est exactement ça le problème. Le sociologue Guy Debord a écrit un bouquin qui s'appelle « La société du spectacle », où il explique que dans les sociétés modernes dominées par le capitalisme, la vie réelle elle est remplacée par sa représentation. C'est-à-dire qu'on spectacularise la vie pour faire de l'oseille, et ça, ça floute le rapport au réel. Et c'est typiquement ce que prône cette fameuse journaliste dont on ne doit plus prononcer le nom, lorsqu'elle dit que le plus important n'est pas la réponse ou la quête de vérité, mais le moment qui va surprendre l'auditeur, on est en droit de se demander si elle a vraiment compris ce que c'était que le journalisme. Un plateau télé, c'est pas censé être un PMU, mais c'est pourtant de plus en plus le cas. On invite des gens au discours très choquant pour créer un moment de télévision et attirer des auditeurices. Ça contribue à la caricature tant de la droite que de la gauche, et forcément, si on invite des personnalités très clivantes aux idées très opposées les unes aux autres, comme Poutou et Zemmour sur un même plateau par exemple, parce que ça fait plus d'audience de les voir s'engueuler, ben le débat devient inaudible et ça contribue à la polarisation de la société encore une fois.
Et c'est vous, parce que vous, parce que, moi parce que, mais oui, bien sûr, votre parti.
Mais qui elle est, celle-là? Qu'est-ce que j'ai
RPR.
Fait, moi?
Enfin vient la question des groupes de médias. Si vous ne le saviez pas, en fait, les médias que vous écoutez, lisez, suivez, appartiennent pour la plupart à des grands groupes. Le Monde, Télérama, Radio Nova ou encore L'Obs appartiennent à un même groupe, lui-même détenu par un ou plusieurs actionnaires. Dans le cas de ce groupe de médias-là, ce sont Mathieu Pigas et Xavier Niel qui financent et donc possèdent ce groupe de médias. De la même façon, CNews, Canal+, ou encore Europe 1 appartiennent également à un même groupe détenu par Vincent Bolloré. Et ainsi de suite pour la plupart des médias, hors médias indépendants et associatifs. Big up à Divergence. Ces actionnaires, ce sont généralement des milliardaires ou à minima des millionnaires. Ces milliardaires, millionnaires, ce sont des humains, hein. Ils ont des intérêts personnels, des idées politiques, que leur argent leur permet de défendre plus que des quidam comme vous et moi. Ben oui, quand on a de l'oseille pour acheter des médias et que la survie de ces médias dépend de l'argent qu'on leur donne, ben ça donne un certain moyen de pression sur la ligne éditoriale. Tenez, moi, si j'étais pété de thunes, dans un monde où l'argent achète tout, y compris les idées, j'essaierais sans doute de faire peser la balance à gauche, hein, No surprise. Et pour ça, je financerai des médias de gauche, pour qu'ils puissent se développer et mettre à l'agenda politique et social leurs valeurs que je partage. Et ben Bolloré fait pareil, mais avec des idées d'extrême droite. Pierre-Edouard Sterrin, pareil. Je ne prétends pas savoir pourquoi ces gens sont d'extrême droite, mais par contre je sais qu'ils sont responsables de la montée des idées d'extrême droite. Sterrin, par exemple, il a pour projet de racheter un maximum de médias, ça s'appelle le projet Périclès. Comme il les tient par les couilles sur le plan financier, les journalistes se plient à ses volontés. Et ceux qui veulent pas, ceux qui ont une certaine éthique, ben c'est ciao, direction France Travail. Donc les journalistes qui restent sont soit eux-mêmes d'extrême droite, soit contraints par une ligne éditoriale sine qua non de leur capacité à payer leur loyer à la fin du mois. Conséquemment, les sujets abordés par ces médias vont coller aux idées de Sterrin. On va cracher sur les migrants, sur les étrangers, sur les arabes, sur les féministes. On va manipuler les informations, les mettre en scène de manière à mettre dans la tête des gens que tous leurs problèmes sont de la faute des arabes et de la gauche. Et là, même système que pour la fenêtre d'Overton, plus on entend quelque chose, plus ça devient plausible, voire réel. C'est comme ça que fonctionne la propagande, et le souci c'est que ça marche. Ça marche très très bien même. D'où les 119 sièges du RN à l'Assemblée nationale. Laissez-moi enfin vous parler du halo de la peur, théorisé par un politologue qui s'appelle Hervé Lebras. Bien souvent, les gens les plus racistes sont ceux qui côtoient le moins les gens d'ethnies différentes à la leur. Les populations immigrées vivent plus dans les grandes villes que dans les petits villages ruraux. Donc le diptyque « l'immigration va nous voler notre travail » aurait alors plutôt tendance à inquiéter les habitants des grandes villes. Pourtant, si on regarde les résultats électoraux, on constate que le vote extrême droite est plus répandu à la campagne que dans les métropoles. Et ça, c'est parce que les gens qui vivent dans les métropoles et qui côtoient donc au quotidien une multiplicité de cultures et d'ethnies, bah, ils constatent que la cohabitation, elle se passe super bien. Mais les médias de Bolloré et compagnie font croire à ceux qui vivent dans les milieux ruraux à des kilomètres de l'immigration que ce n'est pas le cas. Que les immigrés volent, pillent, violent et tuent. Et pour faire croire ça, ils vont hiérarchiser l'information. Quand une personne est tuée par un individu au nom bien français, on ne va pas en entendre parler. Mais si c'était un agresseur d'origine non française, là c'est flash info et on en parle pendant des mois et des mois. Et donc, le halo de la peur fait que ces mêmes habitants de la ruralité se sentent menacés par un danger qui est en réalité minime, voire inexistant. Et donc, ils votent pour les partis qui leur promettent une sécurité vis-à-vis de cette population immigrée qu'ils considèrent comme dangereuse, parce qu'on la leur présente comme telle. Si on regarde les chiffres des violences faites aux femmes, des agressions, des vols, des viols, des meurtres en France, la majorité sont blancs, nés en France, et s'appellent plus Charles-Henri et Stéphane que Malik ou Nassim. Mais ça, CNews ne vous le dira pas.
C'est qui alors ?
J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Voilà, tout ce blabla pour vous dire que je suis profondément inquiète de la manipulation de l'extrême droite, de la montée en puissance des partis politiques qui prônent des idées dangereuses pour la démocratie, et toutes les valeurs d'une France que j'ai de plus en plus de mal à reconnaître comme ma maison. Je suis profondément inquiète de voir des gens de mon âge tomber dans ces idées qui sentent autant la merde qu'en 1940. Je suis profondément révoltée d'entendre des bourgeois en costard se moquer des flottilles humanitaires qui tentent d'aider une population abandonnée par le monde entier. Je suis profondément vénère de voir les mêmes guignols s'auto-sucer au sommet de l'État, refuser la contradiction, refuser la négociation, alors qu'ils ne sont pas foutus de former un gouvernement qui tienne la route plus de 24 heures. Si j'étais vulgaire, j'aurais tendance à leur dire « Allez bien vous faire foutre !» Mais heureusement, je suis polie, alors soyez curieux, restez révoltés et informez-vous bien. Bisous.
Et de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut, d'en bas on s'amuse, c'est la fête. Et de gauche à droite, d'avant.